Bonjour à tous. Merci d'être venus écouter cette conférence qui va donc porter aujourd'hui sur la problématique des déchets nucléaires et j'insisterai plus particulièrement sur le traitement et le stockage. Merci. Et puis, je parlerai, mais de manière beaucoup moins détaillée, en fin de présentation de la problématique sûreté nucléaire. Mais je pense que c'est pas ma spécialité. Je pense qu'on l'abordera beaucoup plus largement la semaine prochaine au cours du débat. Donc, en réalité, donc, je suis chercheure au CNRS, le Centre National de la Recherche Scientifique, et je travaille dans un laboratoire qui s'appelle l'Institut Physique Nucléaire de Lyon, qui est ce qu'on appelle une unité mixte CNRS-université, c'est-à-dire qu'au sein de ce laboratoire, il y a à la fois des chercheurs qui sont directement rattachés au CNRS et en particulier au département du CNRS qui s'appelle l'unité 3, c'est-à-dire l'Institut National de Physique Nucléaire et Physique des Particules, et puis à l'Université Lyon 1. Voilà. Donc, c'est vrai que le problème du stockage, enfin, de la gestion des déchets nucléaires, c'est quelque chose dont on parle beaucoup, et je vais essayer d'apporter un petit éclairage sur ce que l'on fait vraiment, enfin, actuellement de ces déchets nucléaires, sachant que je vais surtout parler des déchets qui sont issus donc des centrales. Alors, on peut donc s'interroger sur l'origine des déchets radioactifs, parce qu'ils ne viennent pas des centrales, donc c'est vrai qu'en grande majorité, ils viennent de l'industrie électronucléaire, vous voyez, pour 62%, principalement des centrales, des usines de la Mondustique, mais aussi de la Laval. Mais ces déchets viennent également du secteur de la recherche, du secteur défense, du secteur industrie non électronucléaire, et en particulier quand on fabrique des sources télé, ce genre de choses, et puis bien sûr du secteur médical, vous voyez, pour 1%, dans le secteur médical, j'en parlerai pas du tout ici, mais la radioactivité est utilisée à la fois dans des buts thérapeutiques ou de diagnostic. Mais mon propos aujourd'hui, donc, c'est de vous parler de ces déchets qui proviennent de l'industrie électronucléaire. Alors, allons-y. Je vous remonte ce cycle, ce qu'on appelle le cycle du combustible qu'a montré la semaine dernière Dominique Hertz, où on vous a parlé donc, de la manière dont on fabriquait les pastilles de combustible. Donc, depuis, on appelle souvent ce cycle du combustible de la mine au stockage, parce qu'il part depuis vraiment la mine, la manière dont on extrait l'uranium, dont on va l'enrichir, et dont on va fabriquer les fameuses pastilles du dioxyde d'uranium. Et puis une fois que le combustible a passé en gros 4 ans en réacteur, eh bien il va sortir des réacteurs, on est ici, donc ça c'est toute la partie en orange, la partie exploitation, donc c'est la partie réacteur, et puis nous on va s'intéresser à ce qui se passe dans cette partie verte, c'est-à-dire on sort le combustible du réacteur et on va voir ce qu'on va en faire justement. Alors je vous rappelle simplement le problème. En réacteur, qu'est-ce qui se passe? Eh bien on va faire fissionner, on serait dans le reste, le noyau d'uranium-235. Donc l'uranium-235, lorsqu'il va, on va dire, réagir avec un neutron, il va donner ce noyau qui est l'uranium-236, qui va vivre très peu de temps et qui va donc se fissionner en deux fragments, les fragments que j'ai appelés ici fragment 1 et fragment 2, qui sont les fragments de fission, et puis on va dire en moyenne il va donner naissance à 2 ou 3 neutrons. Donc on dit que c'est une réaction très exoénergétique, c'est-à-dire qu'elle produit énormément de chaleur, et c'est bien ce qui nous intéresse, puisque c'est cette chaleur qu'on va récupérer pour faire de l'électricité, donc c'est beaucoup d'énergie. Mais vous remarquez qu'en plus de cette chaleur, qu'est-ce qu'on trouve? Eh bien, on trouve ces fameux fragments qui sont des fragments de fission et qui sont donc des produits de la fission. Donc voilà. Donc, ces fragments de fission, justement, ils vont constituer la première famille. Là, j'essaie de passer un petit peu en revue ce qu'on appelle vraiment, ce que sont vraiment ces déchets, parce qu'on parle souvent des déchets, mais on ne sait pas vraiment ce que c'est. Donc là, on essaie de voir ce que sont ces déchets. Donc, première famille, il y en a trois, c'est les fragments de fission qu'on appelle aussi produits de fission. Alors, ils vont avoir des durées de vie très différentes, je vais vous illustrer ça tout de suite après, mais on peut dire en gros qu'ils représentent un tiers de la classification périodique, c'est-à-dire d'un point de vue éléments chimiques, ce sont des éléments extrêmement divers. Ils ont une très grande diversité, donc on le sait, on parle souvent du césium, de l'iode, du xénon, on en connaît un certain nombre. En fait, si on regarde cette fameuse courbe que vous avez peut-être déjà vue, c'est la manière dont se répartissent justement les fragments de fission en fonction de leur masse. Donc cette courbe, elle est très connue, on l'a tracée ici pour une fission U5, une fission d'uranium-235 et une fission de plutonium-239. On voit ici que c'est une courbe qu'on appelle à deux bosses, avec une grande partie des produits de fission qui sont situés autour des masses 90, et puis l'autre qui est située autour des masses 140. D'accord ? Donc, à chaque fois qu'un noyau se casse, eh bien, il va produire deux produits de fission, et il va y avoir un grand nombre de possibilités pour le noyau de fissionner. Ce qui fait qu'au bout du compte, on va trouver un très grand nombre d'éléments chimiques. Alors, je vous donne ici, excusez-moi, la laisser n'est pas extraordinaire, mais c'est simplement pour vous illustrer la manière dont ça se passe. Vous avez un neutron qui réagit avec le noyau d'uranium-235. Donc, un exemple ici, donc vous avez ici trois neutrons qui sont issus de cette réaction. Et puis, dans cet exemple-là, les deux produits de fission qui sont produits, vous voyez un à gauche et un à droite, donc un qui est proche de la masse 90, en l'occurrence ici, c'est le strontium. Et puis un autre qui est le xénon 143, c'est la bosse 140, et vous voyez que de part et d'autre, ils sont radioactifs et ils vont donner naissance, entre guillemets, à toute une famille de noyaux, d'autres noyaux radioactifs. Donc pour le strontium, par exemple, il va donner du tritium, puis du zirconium. Une fois que le noyau est représenté en noir, ça veut dire qu'il est stable, donc ça s'arrête là. Et puis de l'autre côté, le xénon va donner du césium, qui va donner du barium, etc. Et puis ça va se terminer sur le néodyme, qui va être stable. Donc, avec chaque radioélément ayant sa propre période, vous voyez qu'au sein de ce combustible, assez rapidement, on va se retrouver, ces produits de fission vont correspondre à une quantité d'éléments importants et de nature extrêmement différente. Donc ça, c'est la première chose, et c'est extrêmement important de le noter. Parce que par la suite, quand on va vouloir gérer et traiter le combustible usé qui renferme ces radioéléments, le fait qu'il y ait une grande diversité des éléments de chimie, ça va bien évidemment compliquer la chose. Donc, première famille, les produits de fission. Donc, ici, vous avez un tableau qui représente les principaux produits de fission. Vous voyez, bon, je vous ai souligné en orange, par exemple, l'iode. Alors l'iode, il y a un certain nombre d'isotopes, donc on parle souvent d'iode 131, qui est une période de 8 jours et qui est produit au niveau de la fission à un niveau de 3%. Je vous ai souligné également le césium, qui a 30 ans de période et qui est produit à hauteur de 6%, mais vous voyez qu'il y en a beaucoup d'autres. Alors, deuxième famille qui constitue ces fameux déchets, on les appelle en chimie les actinides. Alors, en fait, la fission, si j'ose dire, ça gagne pas tous les coups, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'il y a réaction entre un noyau d'uranium-235 et un neutron qu'il y a forcément fission. Hein. Il peut y avoir, justement, capture neutronique qui ne donne pas lieu à la fission. Et à ce moment-là, eh bien, au lieu d'avoir deux fragments de masse plus petits, on va avoir, au contraire, un noyau plus gros. Donc, ce noyau plus gros, comme il est plus gros que l'uranium, on va dire que c'est la famille, que ce sont des transuraniens, ils sont plus gros que l'uranium, ils sont très lourds. Ils sont bien sûr radioactifs, ils sont artificiels, et en général, ils ont des durées de vie qui sont très très longues. Et ces actinides, on va en distinguer deux sortes. Les actinides qu'on appelle actinides mineurs, et les actinides majeurs. Alors, je commencerai par les actinides majeurs, parce que on les appelle majeurs, parce que c'est eux qui sont fabriqués en plus grande quantité. Et c'est bien évidemment tous les isotopes de l'uranium, donc l'uranium était là au départ, mais également les isotopes du plutonium, et le plutonium, lui, il n'était pas là au départ. Alors, je vous ai mis ici en jaune, vous voyez la réaction qui permet d'aboutir à la fabrication du plutonium 239. Comment ça se passe? Ben, vous avez dans le combustible, vous avez beaucoup d'uranium-238 par rapport au peu d'uranium-235. On sait que l'uranium-238 n'est pas utile avec les neutrons thermiques. Donc, en l'occurrence, qu'est-ce qui se passe? L'uranium-238 capture le neutron. Il ne fissionne pas, il devient plus gros. C'est l'uranium-239 qui, par des intégrations successives, va donner le plutonium-239 qui, lui, va être utile. Donc, des réactions comme ça, sur tous les isotopes de l'uranium qui sont fabriqués, ben, il va y en avoir beaucoup. Donc, en plus de cet uranium et de ce plutonium qui forment par exemple comme ceci, on va avoir, vous avez vu apparaître là ici au milieu sur la chaîne, vous avez vu ici un élément qui est le neptunium, qui est aussi un gros noyau, là en l'occurrence c'est le neptunium 239, et bien ce gros noyau, lui, il va aussi être radioactif, il est aussi un actinide, mais lui on va l'appeler de même que, c'est, que les deux autres isotopes américium et curium, ils sont produits en moins grande quantité, donc on les appelle des actinides mineurs. Donc il s'agit là de la deuxième famille de noyaux qui sont produits, c'est les actinides, ou les transuranes. Et puis la troisième famille, alors ce n'est pas au cœur du combustible, mais je vous en parle quand même, c'est les, ce qu'on appelle les produits d'activation. En fait, ils proviennent de l'activation des matériaux qui se trouvent, par exemple, autour du combustible. Alors je vous donne l'exemple du cobalt 60. Pourquoi ? Parce que dans les cuves qui sont faites en acier, eh bien, on y retrouve souvent comme impureté du cobalt 59, donc lui il n'est bien évidemment pas radioactif, mais il va s'activer au cours de la vie en réacteur, et d'ailleurs réacteur, et il va par exemple donner du cobalt 60. Donc ça c'est une troisième famille de radioéléments, mais nous on va surtout s'intéresser aux produits de fission et aux actinides. Alors, je refais un petit peu l'histoire. Donc le combustible qui est sorti du réacteur, après mettons 4 ans de fonctionnement, c'est donc un combustible usé. Et ce combustible usé, dans un premier temps, on va le laisser refroidir auprès de la centrale. Et puis ensuite, donc il va partir pour le retraitement. Donc après extraction, le combustible étant proposé dans des, on appelle ça des piscines de refroidissement. Pourquoi ? Parce que, d'une part, ça permet de diminuer de manière significative sa radioactivité, parce qu'on sait que le temps, ben, c'est ce qui contribue à diminuer la radioactivité, et puis, également, il y a une diminution de la puissance thermique qui est dégagée. Parce qu'il faut bien se rappeler que ce n'est pas parce qu'on arrête un réacteur qu'immédiatement la radioactivité disparaît. Hein. Lorsque le flux de neutrons décroît rapidement, bien sûr que les réactions de fission vont cesser, mais par contre, eh bien, les noyaux vont être radioactifs encore très longtemps et ces intégrations vont continuer à produire de la chaleur, c'est ce qu'on appelle la puissance résiduelle. Donc c'est très important, en sortant le combustible usé, de les faire refroidir en piscine. Donc après la piscine qui se trouve à côté du réacteur, il va refroidir dans une autre piscine qui se trouvera à la halle. Alors là, je vais juste vous faire un petit bilan. Un petit bilan pour vous montrer, en gros, alors c'est assez schématique parce qu'on est parti d'une tonne de combustible au départ et on va regarder ce qui se passe au bout de 3 ans de fonctionnement de combustible dans un réacteur à eau légère. Donc, en gros, hein, sur une tonne de combustible de départ, on parle d'un enrichissement à 3,3%, donc on a 967 kg d'uranium-238, qui donc n'est pas difficile, et puis on va dire qu'on a 33 kg d'uranium 235. Bon, en fait, le taux d'enrichissement maintenant est un peu plus élevé, mais ça ne change pas vraiment l'idée dont je vais vous faire part maintenant. On regarde ce qui se passe au bout de ces 3 années. Alors, au bout de ces 3 années, qu'est-ce qu'on a dans le combustible ? Eh bien, vous voyez qu'on a quand même encore 943 kg d'uranium-238. Il nous reste 8 kg d'uranium-235. Et puis, on a fabriqué bah, tous ces radioéléments dont je viens de vous parler, à savoir les produits de fission qui représentent 35 kg et qui sont d'origine extrêmement diverse, un certain nombre d'isotopes du plutonium, bon, on a l'uranium-236, et puis on a, dans une moindre mesure, il y en a beaucoup moins, vous voyez, les actinides mineurs, donc neptunium, américium et curium. À partir de là, quelle réflexion peut-on avoir ? Bah, il y a deux politiques possibles. Soit on se dit, et c'est ce que se disent par exemple typiquement les Américains ou les Suédois, eh bien tout cet ensemble que j'ai représenté d'une autre manière, mais c'est exactement la même chose que ce qu'on a vu précédemment, tout cet ensemble-là va constituer un déchet. Bon. Et puis il y a d'autres pays, c'est le cas de la France, c'est le cas du Japon, du Royaume-Uni, qui se disent, ben, c'est un petit peu dommage de ne pas essayer de récupérer toute cette matière première qui finalement peut être recyclée, peut être réutilisée. Puisque vous voyez que les vrais déchets, c'est-à-dire les actinides mineurs et les produits de fission, correspondent à peu près à 4% de cet ensemble, mais que les 96% restants, c'est quand même de l'uranium-238, de l'uranium-235 et du Pu-239. Et ça, c'est tout à fait revalorisable. Donc l'idée est de se dire, eh bien, essayons de récupérer cette matière combustible et puis de la réutiliser. D'accord ? Mais ça, c'est un choix, encore une fois, là, c'est un choix politique. D'accord ? Donc, c'est comme ça qu'en France, eh bien, on va mettre en place un procédé de retraitement du combustible usé. Alors, ce procédé, il s'appelle PUREX pour Plutonium Uranium Refining and Extraction, puisque l'idée, c'est de récupérer l'uranium et le plutonium et de les séparer des produits de fission et des acides mineurs. Donc ça, c'est vraiment le premier objectif, c'est récupérer les éléments valorisables. Et à partir de ces éléments valorisables, on pourra fabriquer un nouveau combustible, alors qu'on a appelé MOX pour Mixed Oxide, Oxide Mixed, qui sera un combustible à base d'uranium et de plutonium, donc un oxyde mixte uranium-plutonium, avec plutonium très minoritaire dans le combustible. Ça, c'est le premier objectif. Et puis, le deuxième objectif, c'est de conditionner ce qu'on appelle les déchets ultimes, c'est-à-dire les fameux produits de fission et les acides miniers, dont on ne peut plus rien faire et qui vont nous empoisonner, entre guillemets, la vie. D'accord ? Alors, le principe de base de cette séparation, c'est l'extraction sélective de l'uranium et du plutonium par un produit qui s'appelle le tributylphosphate et qui a cette propriété d'extraire sélectivement uranium et plutonium. Donc, actuellement, il y a trois pays qui utilisent ce procédé, qui est mis en œuvre à La Haye par Areva. Alors ça, c'est un schéma extrêmement simplifié du principe de ce procédé PUREX. En fait, donc vous avez le combustible irradié qui arrive là ici, en haut à gauche. Donc tout le combustible usé, c'est-à-dire la gaine avec son qui renferme toutes les plastiques. Donc première étape, bien sûr, il faut cisailler, hein, parce que les crayons de combustible, ils font 4 mètres de long, donc c'est pas ces crayons-là qu'on va traiter, donc on les cisaille en petits morceaux, et puis on dissout par l'acide nitrique à cet HNO3, on procède à la dissolution donc du combustible. Donc on retrouve d'une part ce qu'on appelle l'écorce, c'est-à-dire les morceaux de gaine qui ne renferment plus le combustible, puisqu'on l'a dissous. Et puis vous avez ici eh bien, la solution qui renferme donc l'uranium, le plutonium, les produits de fission et les actinides mineurs. Mais donc ça c'est très simplifié, vous avez un très très grand nombre de noyaux différents de solutions. Et puis à partir de là, vous allez, on va procéder à ce qu'on appelle une extraction, alors pour les chimistes c'est une extraction liquide-liquide, parce qu'on va traiter cette solution par le TBP, qui est donc une phase, ça va constituer une phase organique, hein, que c'est un solvant organique, donc on va récupérer dans cette phase organique l'uranium et le plutonium qui ont été sélectivement triés, on va dire, par le TBP, et puis on va retrouver dans la phase aqueuse, eh bien, les autres produits, fission et actinides mineurs. Et donc, on va, alors ce qui est intéressant de noter quand même, c'est que ce procédé PUREX qui permet de récupérer à plus de 99,8% l'uranium et le plutonium, donc il est très efficace. Et puis, donc, on va récupérer les déchets ultimes, qui sont les déchets les plus radioactifs et qu'on appelle à vie longue, mais on va y revenir juste après, et que l'on va donc vitrifier. Donc, ce procédé de vitrification, c'est lui qui renferme les déchets ultimes. Alors là, vous avez un petit schéma extrêmement simpliste, hein, mais qui montre que ici, on fait arriver la solution, donc c'est une solution aqueuse qui renferme ces produits de fission et mineurs, donc qui passe dans un four où on va finalement éliminer l'eau, hein, et on va se retrouver avec des cendres, si on peut dire, qui renferment les produits de fission et les acides mineurs. Et en même temps que ces cendres vont arriver ici, eh bien, on va faire couler en même temps une frite de verre. Alors cette frite de verre, c'est pas un verre simple, hein, c'est un verre extrêmement complexe qui a une couleur noire, qui a été conçu spécialement pour ce procédé de vitrification, qui renferme une trentaine d'oxydes différents. Donc c'est un verre extrêmement complexe. Et il va donc emprisonner, puisque c'est un verre à l'état fondu, il va emprisonner les produits cuissons et les acides mineurs, et le tout va donc couler ici dans un conteneur qui est un conteneur en acier. Donc on aura vraiment directement, au moment du refroidissement, le verre qui renferme les produits cuissons et les acides mineurs. Alors il y a trois ateliers qui sont exploités par Areva de vitrification. Un à Marcoule et puis les deux ateliers de la Hague qui ont été démarrés respectivement en 89 et en 92. Voilà. Et puis là, donc, je reviens un tout petit peu en arrière sur les coques. Vous savez, je vous ai dit, on sépare la solution et puis les bouts de gaine qu'on appelle des coques, c'est le nom qu'on leur a donné. Bon, ben là, ils vont subir un autre traitement. Prestige-Zayage, ces coques, eh bien, elles vont être nettoyées. Elles vont être, donc, vous avez ici une schématisation donc, du dissolveur rotatif qui permet de les nettoyer. Et puis, ces coques vont être compactées et mises en dessus. Et ça va constituer aussi un autre type de déchets. Donc, les vitrifiés, c'est ce qu'on appelle, on va le voir après, les déchets de haute activité à vie longue, ce sont les plus radioactifs. Et puis, les coques et embouts. Alors les coques, c'est les petits bouts de gaine, et puis les embouts, parce que c'est les embouts des crayons en fait. Hein. Donc ça c'est du métal. Eux, ils vont constituer une autre catégorie de déchets, les moyennes activités à vie longue. Alors tout ça nous amène à nous demander là, qu'est-ce que c'est finalement qu'un déchet radioactif. Donc en fait, finalement, un déchet radioactif, eh bien c'est une substance pour laquelle aucune utilisation ultérieure n'est prévue. On ne peut absolument plus rien en faire. Donc, on voit bien ici que nos déchets, ce sont les déchets haute activité à vie longue vitrifiés et puis les déchets moyenne activité à vie longue qui sont compactés. Alors, à des doses naturelles, puisqu'on sait qu'on est entouré de radioactivité, la radioactivité n'est pas dangereuse pour l'homme, mais on sait très bien qu'à forte dose, eh bien justement, il faut absolument se protéger de cette radioactivité et les déchets radioactifs présentent un risque pour la santé. Par conséquent, il va falloir les conditionner de sorte de protéger l'homme et l'environnement des risques que représente cette radioactivité. Donc, toute la problématique va être ce conditionnement et ce choix du stockage de ces déchets divers et variés, mais particulièrement des moyennes activités et hautes activités à vie. Alors, pour cela, pour s'occuper de cette problématique-là, eh bien, il y a une agence qui a été créée, donc c'est l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, donc l'ANDRA, qui est en charge en France de la gestion de tous les déchets radioactifs. Pas seulement des déchets dont on vient de parler, qui viennent de l'électron nucléaire, mais de tous les déchets radioactifs. Toutes les fois qu'on produit des déchets dans les hôpitaux, partout, eh bien, c'est l'ANDRA qui est en charge de récupérer ces déchets. Alors l'ANDRA est placée sous la tutelle du ministère en charge de l'énergie, de la recherche et de l'environnement, et c'est ce qu'on appelle un EPIC, c'est-à-dire un établissement public à caractère industriel et commercial. Au départ, l'ANDRA avait été créée en 1979 au sein du ministère de l'énergie atomique, et puis en 1991, le Parlement a décidé d'en faire une agence publique indépendante. Donc, le rôle de l'ANDRA, il est à la fois d'assurer la gestion de l'ensemble des déchets radioactifs français et également de concevoir les centres de stockage qui sont adaptés à ces déchets. Alors, là, je reviens un petit peu sur ce qui existe en matière de législation. En fait, il y a une première loi qui a été, qu'on a appelée la loi Bataille parce que c'était le député Bataille qui l'a proposée en 1991. Et cette loi, en fait, c'était vraiment une première parce que c'était la première fois, quelque part, qu'il fallait faire des recherches dans le cadre d'une loi sur des problématiques de ce type-là. C'était vraiment une première. Donc, cette première loi Bataille, elle donnait 15 ans. À la recherche française, aux acteurs du nucléaire, pour proposer des solutions pour la gestion à long terme des déchets radioactifs. Alors, moi qui suis chercheur CNRS, donc on travaille sur les problématiques qui sont liées aux propriétés de confinement des matériaux du nucléaire, et cette loi, elle a été pour nous l'occasion de pouvoir avoir des financements pour faire nos recherches et ça a créé des liens avec en particulier bien sûr le CEA mais également les grands acteurs du nucléaire que sont AREVA, que sont l'ANDRA, que sont EDF, bien sûr. Hein. Donc, suite à cette loi, il y a vraiment des programmes qui ont été construits avec tous les gens et le CNRS qui était associé. Mais bien sûr, d'une manière extrêmement mineure, mais malgré tout, il était associé. Alors, dans la loi, il y avait trois axes de recherche. La séparation transmutation, la nature du stockage et puis ce qu'on appelle l'anthropogène de longue durée. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un bout des 15 ans, il y a des rapports qui ont été écrits, tout le monde s'est appelé à faire le bilan des 15 ans de recherche, et puis la conclusion, c'est que les solutions n'étaient pas mûres et il fallait continuer. Donc, à partir de là, il y a une deuxième loi qui a été votée, qui a pris le relais, qui est donc la loi de juin 2006 et qui a repris les mêmes axes. Sauf qu'entre-temps, il y a une chose qui avait changé, parce que dans la première loi, le stockage pouvait être réversible ou irréversible. Donc là, le choix a été fait dans la deuxième loi d'un stockage réversible. Et puis, la transmutation aussi a pris un impact plus important. Et on y trouve aussi, dans cette loi de 2006, je ne l'ai pas écrit ici, mais c'est une erreur, que des recherches doivent être faites aussi vis-à-vis des réacteurs de génération 4, dont a parlé Dominique la semaine dernière. Donc actuellement, on travaille dans le cadre de cette loi. Et il y a un plan qui a été mis en place, qui est le plan de gestion des matières et des déchets radioactifs, qui vise à clarifier le cadre de gestion et à l'améliorer. Donc, c'est l'article 6 de la loi relative à la gestion durable des matières et des déchets, qui définit précisément les objectifs de ce PNG-MDR, qui sont de dresser le bilan des modes de gestion existants, de recenser les besoins d'installation, d'entreposage ou de stockage, de préciser les capacités nécessaires pour les installations et les durées d'entreposage, et de déterminer les objectifs à atteindre pour les déchets qui ne font pas encore l'objet d'un mode de gestion définitif. Donc voilà. Donc c'est très cadré vis-à-vis de la loi. Alors je vous rappelle juste ici des repères. Hein, en 91, donc la fameuse loi dont je vous ai parlé. En 2005-2006, il y a eu un débat public, parce qu'à chaque fois qu'il y a des décisions à prendre, le débat public est instauré. Et donc, en 2006, cette seconde loi qui a pris le relais, avec comme échéance, il y a 2013, où il va y avoir un débat public sur le compte de stockage réversible profond, mais je vais en parler juste après, avec la proposition d'un site de stockage pour ces déchets de haute activité. En 2015, il y aura une loi qui fixe les conditions de réversibilité du stockage profond. Et ce que dit l'ANDRA aujourd'hui, c'est que le centre de stockage profond réversible devrait commencer son exploitation et son exploitation en 2025. Donc pour l'instant, tous ces déchets ne sont pas stockés, mais ces déchets qui iront en profond ne sont pas stockés, mais sont entreposés. Il y a une très grande différence de vocabulaire. Enfin, le vocabulaire est important. On distingue l'entreposage du stockage. L'entreposage est provisoire, donc actuellement les déchets haute activité et moyenne activité à vie longue sont entreposés, alors qu'on va voir que les déchets moins radioactifs sont déjà stockés. Et donc plus tard, on va statuer sur le stockage de ces déchets très radioactifs. Alors, l'objectif de la gestion des déchets radioactifs, vous avez compris, c'est protéger l'homme et son environnement contre les risques radiologiques. Alors, il y a trois grands principes dans la gestion des déchets. Je dirais que c'est les trois grands principes qu'on applique aussi à soi-même quand on gère ces déchets ménagers. Le premier, c'est le tri, hein, donc, c'est-à-dire la classification des déchets. On ne mélange pas les cartons avec les déchets, les ordures, bref, vous avez compris ce que je veux dire. Donc, c'est le tri. La deuxième, principe qui est très important aussi, c'est la réduction de volume. Hein. On a intérêt à rendre ces déchets le moins encombrant possible. Donc ça va être le compactage en particulier. Et puis le troisième principe, c'est la sûreté. Donc là, ça va être le stockage. Voilà. Donc on va regarder un petit peu la manière dont on s'occupe de ces trois aspects. Donc on peut commencer par le tri, donc la classification des déchets. Tous ces déchets n'ont pas la même dangerosité. Donc on va les répertorier en 5 catégories. Qui vont permettre de voir comment on va les stocker, les conditionner, les stocker en fonction de ces catégories. Donc il va y avoir deux critères principaux dans ces catégories. Premier critère, ça va être le niveau d'activité. intensité et nature du rayonnement émis. Et puis, deuxième critère, durée de vie. Donc, il y aura vie longue, vie courte. Ce qu'on appelle, alors, dans le premier critère, il y a le fait qu'on a toujours des émetteurs alpha au sein de ces déchets. Et puis, ce qu'on appelle durée de vie, c'est-à-dire que la limite qui a été fixée, c'est 30 ans. Donc, tous les vies courtes, c'est les périodes inférieures à 30 ans, et au-delà, c'est les vies longues. Les vies longues pouvant aller jusqu'à plusieurs millions d'années. Donc, vous voyez que c'est vraiment des vies très, très longues. Donc, à partir de là, on définit donc ces cinq catégories. Donc, les déchets de très faible activité, c'est ce qu'on appelle les TFA, déchets de très faible activité. Donc, la France est le premier pays à considérer ces déchets-là. Il y a beaucoup de pays qui considèrent, parce que c'est une radioactivité très, très faible. On limite de la radioactivité qui pourrait ne pas être considérée. Donc, voilà. Après, il y a les déchets de faible et moyenne activité, mais à vie courte. Donc, c'est les SMA. Vie courte, l'été. Ensuite, il y a les déchets de faible activité à vie longue, les FAVL. Les moyennes activités à vie longue, les MAVL, on en a parlé, c'est les coques et embouts compactés. Et puis, les hautes activités à vie longue, donc c'est les vitrifiés. Voilà. Donc, selon la catégorie, eh bien, le déchet ne va pas être géré de la même façon. Donc, actuellement, je dirais que le problème est réglé pour les TFA et les FMAVC. Les FAVL sont en cours d'étude, et puis les MAVL et les LHAVL aussi sur le stockage profond. Donc on va revenir sur ces différentes catégories avec des photos qui montrent un petit peu donc, la manière dont c'est fait. Donc on commence par les fameux déchets de très faible activité. Donc j'ai eu la chance, on peut dire, d'aller visiter ces différents sites qui existent déjà. Donc on a visité avec nos étudiants ce centre de stockage, je vais en parler après. Donc les TFA sont des déchets qui proviennent essentiellement du démantèlement de la salle solitaire et de l'industrie classique, où on va retrouver beaucoup de matériaux, des ferrailles, des plastiques, des gravats, donc ça fait des volumes quand même assez importants, et ils vont être conditionnés soit dans des fûts métalliques, soit dans ce qu'on appelle des big bags. Vous avez ici une vue d'un big bag. Voilà. Vous avez au-dessus, avant d'être mis en big bag, justement, des exemples de déchets TFA qui seront mis ensuite dans ces conteneurs. Donc, vous voyez que les TFA, il y en a aussi et qui viennent d'autres secteurs. Le nucléaire représente en gros 45% des déchets très faible activité. Et ensuite, ils vont être mis dans ce centre de stockage dont je vais vous parler, qui est donc le centre de stockage de Morvilliers, et je vous expliquerai comment ça se passe. Deuxième catégorie de déchets, donc les faibles et moyennes activités à vie courte. Donc là, vous voyez qu'on est quand même à 70% en provenance de l'industrie électronucléaire. Et donc là, on va retrouver principalement des vêtements, des outils, des gants, des filtres. Donc il s'agit d'activités plus importantes. Voilà. Et ces déchets, eh bien, on va les conditionner dans des conteneurs en métal ou en béton. Puis on va en rehauter le tout de béton. Et là, on va voir aussi comment ils sont stockés. En surface, autant les TFA que les FMA vie courte sont stockés en surface, et je dis bien stockés puisque c'est définitif. Ensuite, vous avez les FAVL. Alors les FAVL, c'est un petit peu plus compliqué, c'est essentiellement des déchets qu'on dit radicaires ou de graphite. Alors par exemple, nous, dans notre recherche, on s'intéresse beaucoup aux déchets graphiques. Il se trouve que la première génération de centrales nucléaires a généré énormément de graphite, puisque le modérateur de ces centrales UNGG était le graphite. Et actuellement en France, on a 23 000 tonnes de graphite à gérer suite au démantèlement de ces centrales UNGG. Donc ce sont des déchets faible activité, mais à vie longue. Donc pour l'instant ils sont entreposés, mais l'ANDRA est en train de chercher une solution pour le stockage de ces déchets, et cette solution sera certainement un stockage à faible profondeur. Mais les choses sont en train d'être étudiées, puisqu'ils cherchent un site. L'ANDRA nous a expliqué la manière dont ça se passait. Vous verrez géographiquement tout à l'heure que tous ces centres sont à peu près tous situés au même endroit. Et que la difficulté, c'est de trouver des communes qui acceptent la construction de ces centres de stockage. Et vous verrez que il y a plusieurs sites qui avaient été proposés, parce que bien évidemment, le site doit répondre à un certain nombre de critères géologiques aussi. Donc, on ne peut pas proposer n'importe quel endroit. Et voilà, donc la difficulté est de trouver des communes qui acceptent ceci. Ensuite, vous avez les MADL. Donc, les MADL, on en a parlé tout à l'heure, c'est essentiellement donc, les coques et embouts qui donc, proviennent des gaines de combustible. Mais il y a aussi des boues bitumées qui viennent des traitements des effluents liquides des installations de traitement. Vous avez des déchets technologiques. Donc, ce sont des déchets qui sont moyennement radioactifs. Et eux, ils vont être conditionnés dans des fûts métalliques et regroupés dans des conteneurs en béton. Et ils sont stockés en profond. Pour l'instant, ils sont entreposés. Et puis, la dernière catégorie de déchets, donc les déchets très radioactifs, qui proviennent, alors, à 80% de l'électronucléaire, donc c'est les fameux déchets vitrifiés dont je vous ai parlé, qui sont donc les déchets qui vont renfermer les produits de fission et les actinides mineurs. Donc, eux, ils sont vitrifiés et actuellement, donc, ils sont mis dans des fûts en acier inox. Et tous ces fûts de déchets vitrifiés sont entreposés dans un hall qui doit être à peu près, je l'ai visité également, c'est un hall qui a à peu près la taille d'un stade de foot. Et ils sont mis sous cette dalle en béton, donc dans des puits qu'on appelle des puits ventilés, parce qu'il y a une circulation, je dirais, de refroidissement d'air qui permet le refroidissement, enfin, qui n'est pas trop accumulation de chaleur. Donc ils sont dans ces puits ventilés et ils sont donc entreposés dans l'attente du stockage profond. En termes de volume, c'est pas un très gros volume puisqu'ils sont tous entreposés sur ce site de l'A. Alors, si on regarde maintenant les ordres de grandeur finalement des volumes, ça c'est des chiffres qui datent, qui sont récents, de 2010. Vous avez les 5 catégories de déchets dont je vous ai parlé, le volume que ça représente aujourd'hui. Alors, vous avez d'une part le pourcentage du volume total. Donc, on voit par exemple que le gros de ces déchets en termes de volume, c'est les faibles et moyennes activités à vie courte. Et puis, vous avez une autre colonne qui est intéressante, qui est le pourcentage de la radioactivité. Donc, on voit que les TFA, c'est presque zéro. Les FMA, c'est pas loin de zéro, de même que les FA. Et puis après, on a à peu près 4% pour les moyennes activités à vie longue. Mais on voit quand même que 96% de la radioactivité est renfermée dans les déchets vitrifiés. Alors, si on considère la radioactivité, vous voyez que les HAVL, c'est plusieurs milliards de becquerels par gramme, alors que les TFA, c'est de l'ordre de 10 becquerels par gramme. Donc, il y a vraiment des ordres de grandeur énormes entre les HA et puis les TFA. Donc, ce qui est important de noter ici, c'est que 96% de la radioactivité est renfermée dans 0,2% finalement de ces déchets. Alors, si j'en reviens à mes trois grands principes, donc là on a parlé du tri, maintenant on va parler donc de la réduction de volume. Donc une manière de gagner du volume, c'est de compacter. Donc jusqu'à une certaine période, par exemple, il s'agit ici des déchets moyenne activité à vie longue. Ils étaient enfermés, bloqués, ces déchets, dans des matrices ciment. Et puis, le fait de les compacter, ça a permis de gagner en volume à peu près un facteur 4. Donc, vous avez ici, en fait, sur la droite, à quoi ressemble aujourd'hui un colis de déchets moyenne activité à vie longue. C'est ce que l'ANDRA appelle un CSDC, colis solide de déchets compactés. Donc, c'est ces déchets, par exemple, ça c'est typiquement les déchets qui iront en profond avec les vitrifiés. Alors, dernier principe, donc, c'est la sûreté. Donc, ça c'est extrêmement important quand on parle des déchets parce que le conditionnement des déchets c'est quelque chose qui est extrêmement donc, réglementé. Selon la catégorie à laquelle appartiennent ces déchets, ils vont être je dirais enrobé différemment, conditionné différemment. À chaque fois, on appelle ça un colis. Et quel que soit le type de déchet, de toute façon, le colis sera toujours composé de trois éléments. Il y aura le déchet lui-même, il y aura le matériau qu'on appelle le matériau de confinement, c'est-à-dire c'est la matrice qui renferme le déchet. On l'appelle aussi matrice d'enrobage. Et puis, après, vous avez le conteneur ou l'emballage, qui est finalement le fût, le caisson, qui va renfermer ce matériau de confinement. On peut dire qu'en gros, un colis est composé de 15% de déchets et de 85% d'enrobage et d'emballage. Donc, si on s'intéresse maintenant au stockage, eh bien le stockage, donc, vous avez compris, c'est qui consiste à mettre les colis dans des installations qui sont appropriées à la nature du colis. Et le stockage, ça veut dire aussi qu'on ne retirera pas ces colis des endroits où on les a mis. Donc, en France, ce mode de gestion a été déjà adopté il y a plusieurs dizaines d'années à l'échelle industrielle avec les centres de stockage qui existent actuellement, qui sont les centres de stockage de surface pour les déchets faiblement envoyés de radioactifs à vie courte, soit à peu près 90% des déchets radioactifs. Alors, ces centres, ce sont les centres de stockage de la Manche et de l'Aube, qui sont gérés par l'ONRA. Et depuis 2003, il y a un troisième centre qui est le centre de Morvilliers, qui accueille donc les centres de les déchets de très faible acidité, les CFA, donc qui se trouvent aussi dans l'Aube, à Morvilliers. Donc, je vous ai, enfin, c'est pas moi, c'est l'ONRA. Si vous allez sur le site de l'ONRA, vous allez trouver ce tableau. En fait, vous avez, en fonction du type de déchets, vous avez le mode de gestion. Donc, par exemple, pour les CFA, vous voyez que, quelle que soit la durée de vie, eh bien, ils sont stockés sur le centre de stockage de CFA qui se trouve à Morvilliers. Les faibles activités et les moyennes activités, s'il s'agit de vies courtes, ils sont stockés dans le centre de stockage des faibles et moyennes activités, je vais vous présenter ça juste après. Mais par contre, s'il s'agit de vies longues, pour les FAVL, donc c'est les graphites par exemple, je vous ai parlé d'un stockage à l'étude en faible profondeur, alors que pour les déchets moyenne activité à vie longue ou haute activité à vie longue, eh bien ces stockages sont définis dans le cadre de la loi de 2006, donc ce sera du stockage profond. Donc, je vous parle de ces centres de stockage de surface qui existent aujourd'hui. Donc, c'est une carte de France et j'ai placé moi-même à la main, alors je ne vous garantis pas la précision de géographique, mais enfin, en gros, ça vous montre où c'est. Hein. Donc, le premier centre qui a été mis en place en 1969, c'est le centre de la Manche, qui se trouve en fait à côté de la Hague. Il a été exploité par l'ONRA jusqu'en 1900, enfin il est toujours bien sûr surveillé par l'ONRA, mais je veux dire, il a atteint sa limite de capacité en 1994. Donc depuis 1994, il n'accueille plus de déchets et il est rempli et c'est le centre de l'Aube donc qui a pris le relais. Donc vous avez une image de ce centre de la Manche qui a été donc recouvert d'une couverture verte, on va dire, hein. Et donc pendant 300 ans, eh bien, c'est le cas de tous les centres de ce type-là, il est sous contrôle, c'est-à-dire qu'il y a des contrôles qui sont faits très régulièrement, des eaux de ruissellement, de l'air, etc. Donc ça, c'est géré par l'ONRA. Donc maintenant, le centre de la Manche, il est fermé, il n'accueille plus de déchets, donc c'est le centre de l'Aube à Soulaines-d'Huix, qui est en exploitation depuis janvier 92, qui accueille les SMA. Et qui va être exploité à peu près pendant 60 ans. La capacité d'accueil est prévue pour une durée de 60 ans avec une capacité de 1 million de mètres cubes. Et idem, il sera surveillé ensuite pendant 300 ans. Donc vous avez ici quelques images donc, de la manière dont sont mis les déchets. Donc vous voyez ici les déchets qui sont enrobés avec du bitume par exemple, puis mis dans des emballages type fût, et ensuite tous ces fûts sont mis dans des espaces bétonnés, et après donc ces espaces bétonnés sont recouverts soit de goudron, soit de gravillon, bon ça dépend c'est vraiment de déchets, voilà. Et puis maintenant, donc le centre de stockage qui est ouvert en 2003, donc des très faibles activités, donc c'est le seul centre au monde qui accueille ce type de déchets. Alors là, c'est un petit peu différent. Vous avez, donc il est sur la commune de Morvilliers, donc pas très loin des autres sites. En fait, ces sites sont tous regroupés géographiquement, hein, à quelques kilomètres les uns des autres. Il couvre une superficie de 45 hectares sur la commune de Morvilliers et sa capacité d'accueil est de 650 000 m3. Donc là, c'est un petit peu différent. Pourquoi ? Parce que c'est la méthode de remplissage. Donc là, vous avez, tant que le site n'est pas rempli, en fait, on va accueillir les fameux big bags ou autres containers dans cette sous-serre, on va dire. Hein, donc quand vous voyez, j'appelle ça une serre, en fait, c'est bon. Ça veut dire qu'on est en train de remplir le site. La manière dont on remplit, vous avez ici les déchets. Et puis ensuite, on va venir mettre par-dessus différentes couvertures, de l'argile, différents remblais, et on remplit comme ça toute cette surface. Et lorsque c'est plein, on enlève la couverture type serre, on remet de la verdure dessus, et on commence à travailler sur une autre serre. Voilà, c'est comme ça qu'on remplit les espaces. Donc là, vous avez ce qu'ils appellent une alvéole de stockage qui est en cours de creusement, puis qui est remplie, on recouvre de terre, et ensuite, une fois qu'elle est complètement recouverte de terre, on va mettre une couverture imperméable, et on va mettre à nouveau du sable, de l'argile, etc., de la verdure, et on passe à côté. Voilà. Et en fait, ce centre, il va se remplir, d'après ce qu'on a compris, beaucoup plus vite que prévu. Donc, les volumes sont quand même importants. Donc vous voyez que ce dont je viens de vous parler, les centres de stockage de surface, ça correspond à peu près à 90% des déchets en volume. Il reste donc à s'occuper des 10% restants, les hautes activités représentant à peu près 1%. Donc là on passe au stockage profond, puisque c'est la manière dont on va stocker les 10% restants. Donc aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, ils sont entreposés à l'arche. Alors, en 1991, l'autorité de sûreté nucléaire avait lancé les critères pour trouver un site de stockage. Et dans un premier temps, donc les critères, les voici, ça semble tout à fait évident, pas de risque sismique dans le coin, pas de circulation d'eau, une roche qui permette le creusement facilement, des propriétés profondément vis-à-vis des substances radioactives, une profondeur suffisante pour mettre les déchets à l'abri, donc là, la profondeur en question, ça sera probablement de l'ordre de 100 mètres profond. Et puis, bien évidemment, l'absence de ressources exploitables à proximité. Bon. Sur cette base-là, vous avez, en août 1999, moi je me rappelle très bien, eh bien, le gouvernement qui a autorisé l'ANDRA à construire, non pas un site de stockage, mais un laboratoire de recherche. Donc, ce laboratoire de recherche, construit à 500 mètres de profondeur, dans une couche argileuse de 160 millions d'années, en fait, c'est une argiliste du Calovo oxfordien. Il y a des géologues dans la salle, peut-être ça leur parle. Ce qu'il faut dire, c'est que c'est un site argileux. Voilà. Et que pour l'instant, donc, ce site existe, il est creusé à 500 mètres profond. Donc, vous avez ici, par exemple, une vue en haut de ce à quoi ça ressemble. Alors, on l'a visité aussi. C'est assez impressionnant parce qu'on descend dans ce laboratoire, par moi qui suis claustrophobe, on est énormément basé, par un ascenseur très, très étroit. La descente dure une vingtaine de minutes. Ça fait un bruit d'enfer. Enfin bon. Bref, mais quand on arrive en bas, c'est assez aéré, on va dire, puisqu'il y a encore des galeries qui sont en train d'être creusées, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des camions qui creusent encore des galeries. Donc il y a énormément d'animation, on va dire, dans ce site. Et pourquoi ces galeries? Eh bien, c'est un laboratoire de recherche. Donc, il y a beaucoup de gens qui viennent. Alors, c'est vraiment l'illustration même du laboratoire pluridisciplinaire, parce qu'il y a autant des géologues, des chimistes, des physiciens, toutes sortes de gens qui viennent faire des expériences et à qui, donc, finalement, on va allouer des espaces pour essayer de saturer au mieux que le site est capable d'accueillir ses colis. Et l'idée, bien évidemment, c'est pas d'aller construire le site de stockage des kilomètres plus loin, mais parce que sinon ça ne servirait pas à grand chose, mais c'est de rester dans le coin, si je puis dire, pour aller construire le vrai site de stockage. Donc, mais pour l'instant, bien évidemment, c'est pas fait. Hein. Donc c'est vraiment un laboratoire de recherche. Ça, c'est des photos qu'on avait prises nous quand on a visité le site. Alors, la première, on n'y voit pas grand chose, mais c'est simplement. Une vue ici, on sortait de l'ascenseur, ça m'avait un peu traumatisé, donc j'ai pris une photo du tronc où on voit un petit filet de lumière qui nous ramène à la surface. Et puis là, vous avez les galeries Alors, qui voit beaucoup d'activités, enfin d'activités au sens où les gens font beaucoup de choses. Et par exemple, ici, bon, bah, ils ont déjà creusé des espèces de trous qui pourront accueillir, des gros canaux qui pourront accueillir typiquement des colis, mais bien sûr, quand le site sera construit, ce sera des canaux beaucoup plus importants parce que le volume des colis sera évidemment beaucoup plus important. Mais typiquement, ce qu'on voit ici sur cette photo, bah, c'est des gens qui étaient en train de faire une expérience. Donc, vous avez des capteurs dans tous les coins et puis ils mesurent. Ils peuvent, par exemple, essayer de mettre un radioélément et mesurer la manière dont le radioélément diffuse dans l'argile. Bon, voilà, il y a tout un tas de manips qui sont. C'est vraiment de la recherche qui est faite pour valider, on va dire, cet espace biologique. Alors, si on regarde maintenant le calendrier, donc en 2012, il y aura un débat public. L'ANDRA va proposer, si l'ANDRA trouve le site, va proposer le site, de sorte que le choix devrait être validé. Mais bon, bien évidemment, c'est au conditionnel, parce que tout peut se passer, mais normalement, la validation devrait avoir lieu en 2013. Avec beaucoup de débats publics, beaucoup d'enquêtes publiques, etc., pour un début de stockage prévu en 2025. Et là, rien n'est moins sûr, parce que cette échéance a déjà été plusieurs fois reculée. Donc, c'est actuellement ce qui se dit, que le stockage devrait démarrer en 2025, donc un stockage réversible. Voilà. Donc, bon, ben, je ne sais pas si je vous ai donné une petite idée de tout ça, mais j'en ai fini avec les déchets radioactifs. Je vais resituer ça dans le contexte général de la quantité de déchets qu'on produit en France par habitant. Donc, vous avez ici un espèce de camembert qui vous montre que les déchets par habitant, les déchets de type industriel assez classique, représentent 130 millions de tonnes. Alors, ce n'est pas par habitant, c'est au total. Donc c'est au total, on produit 130 millions de tonnes de déchets industriels inertes, 0,7 millions de tonnes de déchets qui viennent des hôpitaux, 30 millions qui proviennent des déchets ménagers, et puis donc les déchets radioactifs, on les trouve dans la petite part rose, là, c'est les déchets qu'on appelle industriels spéciaux, et ça représente moins de 0,05 millions de tonnes, et... si on ramène ça aux déchets produits justement en un an par habitant, eh bien, vous avez ici donc la quantité de déchets radioactifs. Donc, chacun de nous produit 2 kg de déchets radioactifs par an, dont 5 grammes de ces fameux déchets très radioactifs, les fameux HRVN. Voilà. Alors, il se trouve qu'à l'origine, avec Marc-Christine, on avait discuté du contenu de ma présentation. Bon, je ne sais pas si on ne s'était pas forcément compris ou pas. Bon, je vais parler de la sûreté, mais la sûreté, je ne vais pas en parler beaucoup. Je vais vous dire des choses que vous savez peut-être déjà tous, sur la sûreté, parce que bien évidemment, on ne peut pas parler de déchets sans parler de sûreté, sans parler de risques, etc. Donc, les principes généraux de la sûreté. Ben, tout d'abord, la sûreté, ce n'est pas une notion absolue. Ce n'est pas quelque chose de figé qui n'évolue pas. La sûreté, elle va évoluer en fonction de l'approfondissement des connaissances, des connaissances sur les installations et leur mode de défaillance, sur les expériences qu'on peut avoir des différentes exploitations, et puis ces fameux REX, c'est-à-dire les retours d'expérience qui surviennent dans les accidents très graves. Et les risques liés à l'utilisation d'énergie nucléaire, bien sûr, ils sont connus depuis longtemps, depuis l'origine, mais la sûreté a toujours été une démarche qui évolue au cours du temps, et je dirais qu'il y a trois gros incidents, bien sûr, que vous connaissez tous, qui sont les incidents de Three Mile Island, de Tchernobyl et de Fukushima, qui ont bien évidemment marqué l'histoire et à chaque fois fait progresser ces notions de sûreté. Puisque comprendre ces accidents, c'est aussi comprendre comment les éviter. Donc, si on peut les éviter. Alors, dans une centrale, dans une centrale nucléaire, eh bien, la sûreté, on va la retrouver à différents niveaux. D'une part, au niveau de la conception. Parce que, quand on parle de sûreté, il y a la notion de barrière qui est extrêmement importante. Donc, dans une centrale, on considère qu'il y a trois barrières qui empêche la radioactivité, qui confine, on va dire, la radioactivité. Ces trois barrières, c'est d'abord la gaine de combustible, et on peut même dire plus loin que la pastille, déjà, la pastille de combustible elle-même, elle confine la radioactivité. La pastille du O2, elle retient la radioactivité. A priori, elle ne s'échappe pas, la pastille. Mais vous avez la gaine, qui est donc la première barrière qui est considérée, quand on parle de sûreté, c'est la gaine qui est considérée comme première barrière. Ensuite, vous avez le circuit primaire avec la cuve, on va dire. Et puis ensuite, vous avez l'enceinte de confinement en béton. Si je vous montre ici ce petit schéma qu'on a vu la semaine dernière, donc la première barrière, c'est la gaine de combustible. La deuxième, c'est le circuit primaire avec la cuve. Et puis la troisième, justement, bah, c'est l'enceinte de confinement en béton. Après, il y a ce qu'on appelle la sûreté au niveau de l'exploitation, c'est-à-dire au moment de la maintenance. Quand on va recharger donc, les manipulations qui consistent à recharger le combustible, les visites qui sont faites par la scène, les visites partielles et puis les visites décennales. Donc ça, c'est finalement pour contrôler qu'au niveau de la centrale, il n'y a pas de problème particulier. Donc tous les 10 ans, une centrale subit un contrôle plus approfondi et normalement, en cas de... Si on trouve qu'il y a un vrai problème au niveau de la cuve, au niveau d'un échangeur, au niveau de n'importe quoi, au niveau de la centrale, donc la SN ne donne pas l'autorisation à la centrale de redémarrer. C'est ce qu'on appelle la visite décennale. Après, il y a les visites inopinées, vous direz les gens de l'ES, qui sont faites par la SN, sans en contrôle interne, enfin, au niveau des contrôles externes. C'est-à-dire, j'avais noté que la SN peut venir plusieurs fois de manière inopinée, enfin, mettons une vingtaine de fois, sur une centrale sans avoir prévenu pour voir, pour vérifier qu'il n'y a pas de problème particulier, c'est ce qu'ils appellent le fameux contrôle inopiné interne externe. Et puis il y a aussi les campagnes de prévention et de communication, et en particulier avec les communes alentours, donc les communes qui abritent qui accueillent les centrales. Ça, c'est au niveau de l'exploitation elle-même. Après, il y a la protection des personnes avec la définition d'un certain nombre de règles. Au niveau des personnels, par exemple, les différentes catégories de personnels qui travaillent dans une centrale, donc selon qu'on est catégorie A ou B, on est autorisé à recevoir plus ou moins de radioactivité, puisque ça fait partie aussi du contrôle, les dosimètres passifs et les dosimètres opérationnels. Chaque personne qui travaille dans une centrale est munie d'un dosimètre qui va contrôler la dose qu'il reçoit, et donc il y a des seuils à ne pas dépasser, et ils sont plus importants pour les personnes catégorie A que B, et encore bien évidemment plus pour le grand public. Et puis après, donc, il y a le contrôle de l'environnement, qui est bien sûr un enjeu de société très important, avec des réglementations qui définissent les rejets, etc. Alors, il y a deux organismes importants par rapport à ces contrôles, c'est d'une part la SN, l'autorité de sûreté nucléaire qui va, donc, au nom de l'État, contrôler la sûreté nucléaire et la radioprotection en France. Et puis, il y a également l'IRSN, qui est donc l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, qui lui est l'expert public en matière de risque nucléaire et radiologique. Donc il a un rôle d'expertise, alors que l'IRSN a un rôle de contrôle. Alors, je voulais juste, avant de vous parler des aspects d'eau, faire un petit point sur les unités. Vous savez qu'une unité de dose, en fait, c'est le gray. Hein. Le gray, c'est l'énergie qui est déposée, équivalente à 1 joule par kilogramme de matière. Sauf que, finalement, cette énergie déposée, elle ne veut pas dire grand-chose, parce que dans un organisme vivant, eh bien, selon le type de rayonnement et selon le type de tissu qui est touché, l'effet ne va pas du tout être le même. Donc, on a défini ce qu'on appelle la dose efficace, dont l'unité n'est pas le gré, mais le sievert. Et la dose efficace est une dose biologique qui est très utilisée en radioprotection, parce qu'elle va permettre d'évaluer l'exposition d'un individu aux effets des rayonnements. Et on va tenir compte dans ce calcul de dose efficace, bien évidemment de la dose déposée, mais qu'on va multiplier par un facteur correctif, je ne le détaille pas bien sûr ici, qui va tenir compte d'une part de la sensibilité des tissus, puisque tous les tissus ne sont pas équivalents dans le corps humain, et puis qui va aussi tenir compte de la nature du rayonnement. Donc le fait de parler non pas en sievert, mais ne pas en gray, mais en sievert, quand on parle en dose efficace, c'est qu'on a tenu compte de la nature du rayonnement et de la nature du tissu qui est affecté. Alors, pour le rayonnement, par exemple, là, c'est évident qu'un neutron ou une particule alpha aura plus d'effet qu'un rayonnement bêta, par exemple. Et pareil, tous les tissus ne sont pas touchés de la même façon. Donc, vraiment, quand on parle radioprotection, on utilise cette unité qui est le sievert et on parle de dose efficace. On définit aussi, j'en parle pas ici, ce qu'on appelle la dose équivalente, et en médecine, on parle souvent de dose équivalente, où là, on va tenir compte uniquement du rayonnement. Donc en France, et donc je vous parle en dose biologique là, la dose moyenne naturelle qui est reçue en France par un individu, donc de manière complètement naturelle, qui est liée à l'environnement, donc c'est bien évidemment une moyenne, elle est de l'ordre de 2,4 millisieverts par an. Et plus ou moins, donc plus en général on rajoute 1,5 millisieverts, mais bien sûr ce sont tout à fait des chiffres moyennés, qui sont liés à ce que l'individu va vivre dans l'année. D'accord ? Alors, la limite réglementaire de dose d'exposition pour le public, par exemple, c'est de 1 millisievert par an, en plus, bien sûr, de la dose naturelle que j'ai mentionnée au-dessus. Hein. Et puis, pour un travailleur du nucléaire, par exemple, c'est 20 millisievert par an. Pour des interventions techniques d'urgence, par exemple, on va tolérer des doses de 100 millisieverts par an, voire pour des interventions de secours victimes, jusqu'à 300 millisieverts par an pour les gens qui travaillent à ce contrat. Voilà. Alors, je donne une moyenne ici, c'est ce que je note en bas. La moyenne que j'ai donnée pour la radioactivité naturelle, enfin pour la dose naturelle, c'est de 2,4 millisieverts par an, ce qui est une moyenne en France. Mais il y a certains pays où c'est beaucoup plus. Par exemple, dans certaines régions de l'Inde ou du Brésil, cette dose peut aller jusqu'à 50 millisieverts par an. Donc, ça dépend vraiment du lieu. Alors ça, c'est quelques ordres de grandeur de doses qu'on peut recevoir dans la vie quotidienne. Et là, je vous ai souligné, donc c'est exprimé non pas en millisieverts, mais en microsieverts, mais bon, il y a un rapport 1000 entre les deux. Donc, vous voyez ici, par exemple, que lorsque vous faites un voyage entre Tokyo et New York, donc vous êtes en altitude, vous allez donc augmenter votre dose reçue dans l'année, puisque vous allez ajouter 0,2 millisieverts avec ce voyage. Ce qui est important, et il le signale pas mal dans les médias actuellement, c'est que les scanners, par exemple, ça, c'est des doses qui sont assez importantes aussi, vous voyez, jusqu'à 6 millisieverts, presque 7 millisieverts par an quand on passe à quand on passe un scanner. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Voilà, donc là, c'est les 10 millisieverts, voire plus quand on habite au Brésil. Ça, c'est la limite supérieure pour les travailleurs, donc 250 millisieverts, j'en ai parlé tout à l'heure. Donc, ça vous donne une idée des doses qu'on peut recevoir dans la vie courante en fonction de ce que l'on fait. Donc, ça varie bien évidemment d'un individu à l'autre. Alors maintenant, quels sont les effets de cette exposition sur l'organisme? Ça varie en fonction d'un certain nombre de paramètres. Tout d'abord, bien évidemment, ça paraît logique, hein, de la dose de radioactivité et de la durée d'exposition. Donc là, on va distinguer deux effets. Si on reçoit des très fortes doses pendant des temps assez courts, c'est ce qui se passe en général justement au moment d'un accident, typiquement à Fukushima, là, on a des effets qui sont immédiats. On dit aussi que ce sont des effets déterministes, parce qu'ils apparaîtront automatiquement. Et au-delà d'un certain seuil, ça peut des brûlures, des nausées, etc. D'accord ? Donc ce sont les effets déterministes. Maintenant, si on reçoit des doses moins élevées pendant des temps plus longs, là, on n'aura pas affaire à des effets déterministes, mais à des effets qu'on appelle aléatoires ou stochastiques, c'est la même chose. Ça veut dire qu'ils ne sont pas automatiques et ils apparaîtront plus tard, sur des périodes plus longues, et on ne sait pas s'ils apparaîtront, ça dépend aussi, on va voir des individus. Ensuite, ces effets à l'exposition vont dépendre du type d'exposition, hein, puisque bon, d'une manière générale, toute exposition excessive détruit l'ADN des cellules. Donc, une irradiation externe localisée peut entraîner des brûlures, une irradiation externe à très forte dose de tout l'organisme peut même, bien sûr, être mortelle, hein, puisqu'il va détruire un très grand nombre de cellules. Donc ça, c'est quand on est contaminé de manière externe. On peut aussi être contaminé de manière interne, et ça peut être mortel si les organes vitaux sont touchés, et ça peut également générer des cancers. Donc, juste ce transparent qui vous rappelle qu'il y a deux risques qui sont liés à la radioactivité, la contamination interne et externe. Interne, ça veut dire qu'on inhale ou qu'on ingère des substances radioactives. Et externe, ça veut dire qu'on est irradié par des substances radioactives. Alors, quand on est en présence d'une source de rayonnement, eh bien, il y a trois manières de s'en protéger. La première manière, évidemment, c'est de s'éloigner de cette source. La deuxième manière, c'est de diminuer le temps d'exposition. Et puis, la troisième manière qui est aussi efficace, c'est d'interposer des écrans. Et on sait, par exemple, que le plomb arrête les rayonnements. Voilà. Donc, ces effets vont dépendre aussi du type de radionucléides. Tous les radionucléides ne sont pas équivalents. Ça dépend aussi de la concentration dans l'organe. Et donc, par exemple, je vous donne un exemple, le radium se fixe plutôt sur le squelette, l'iode va se fixer plutôt sur la glande thyroïde. Donc, ça dépend du type de radionucléide. Et puis, ça dépend aussi de la radiosensibilité de chacun, puisque chacun de nous ne réagit pas de la même manière. Typiquement, face à la pollution atmosphérique, bah, vis-à-vis de la radioactivité, c'est la même chose. Donc, les effets dépendent ne sont pas les mêmes d'un individu à l'autre. Alors, je terminerai là-dessus. La notion de culture de la sûreté, c'est ce qui va consister à évaluer les risques. Au départ, c'est issu du secteur nucléaire, puis ensuite, ça a été adopté par toutes les industries technologiques à risque. Et je dirais que cette notion de la culture de sûreté, elle a évolué en fonction des accidents. Je dirais que jusqu'à l'accident de Three Mile Island aux États-Unis, c'était surtout des questions d'ingénierie qui dominaient la sûreté nucléaire. C'est-à-dire que le facteur de risque, c'était surtout le facteur technologique. En 79, il y a l'accident de Three Mile Island, donc les aspects humains vont être considérés. Parce qu'on va commencer à prendre en compte le fait que une centrale, c'est piloté par des hommes. Et il va falloir travailler sur l'interface, donc c'est schématique, homme-machine. Ça devient très important. Il faut former les opérateurs peut-être davantage. Avec l'accident de Tchernobyl, c'est un autre facteur qui apparaît, c'est le facteur organisationnel. Le système technique et les hommes qui le pilotent opèrent au sein d'une organisation complexe. On sait que dans Tchernobyl, les ordres avaient été donnés par des gens qui n'étaient absolument pas des spécialistes, qui étaient des politiques qui avaient donné des ordres de faire des essais de la puissance, etc. Donc, c'est vraiment ce facteur organisationnel qui va être considéré. Et puis, après Fukushima, c'est quand même assez récent. J'ai mis des petits points de suspension, mais des leçons vont être tirées de Fukushima, ça c'est évident. Ces différents accidents de gravité très importante qui ont lieu et qui ont eu lieu, à partir de ces retours d'expérience qu'on a de ces accidents, la sûreté évolue et on considère les choses un petit peu de manière différente. Voilà, je voudrais juste terminer en remerciant des collègues avec qui j'ai discuté, mes collègues de l'ANDRA qui m'ont donné un certain nombre de schémas et une collègue qui travaille avec moi avec qui j'ai pas mal discuté pour préparer cette présentation. Et puis j'ai indiqué ici un certain nombre de sites de référence sur lesquels vous pouvez trouver des informations sur ce que j'ai présenté rapidement. C'est assez général, mais ça donne une idée de ces aspects, surtout sur le stockage et la manière dont on considère en France la. Je stockage des déchets en. Voilà, je vous remercie de votre attention.